Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce premier dimanche, après l'exaltation de la croix, nous commençons la lecture de l'évangile de Luc qui va se poursuivre jusqu'au carême, jusqu'au grand carême. Le récit de cette pêche miraculeuse que nous venons d'entendre est plein d'enseignements et je vais tâcher d'en tirer deux principalement. C'est d'abord le miracle qui va décider de la vocation des premiers apôtres et notamment de l'apôtre Pierre ainsi que ses compagnons de pêche. Sans aucun doute, Pierre, qui s'appelle encore Simon, a déjà rencontré Jésus, mais jusqu'ici, il n'a vu que l'homme dans la personne de Jésus. Cet homme qu'il appelle maître et à qui il obéit, car il le considère sans doute comme supérieur à lui et il le respecte. C'est ainsi que lorsque Jésus dit à Simon-Pierre d'avancer au large et de jeter les filets pour prendre du poisson, celui-ci lui répond « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Et c'est alors que le miracle se produit. La pêche est tellement abondante que les filets se déchirent sous le poids du poisson et que la deuxième barque doit venir en renfort pour ramener toute cette pêche. À ce moment, Pierre comprend que Dieu est là, est présent. Et saisi d'effroi, conscient de sa profonde indignité, il se jette à genoux aux pieds de Jésus. Dieu se révèle et voici que soudain, Pierre se sait pécheur. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. À travers ce miracle, Pierre et certainement les autres apôtres ont perçu dans le Christ la présence divine. Et c'est cela qui les emplit d'une crainte sacrée. Mais aussitôt, le Seigneur les encourage et leur signifie quelle va être la mission qu'il leur confie désormais. Non plus prendre des poissons avec des filets matériels, mais des hommes dans les filets de la foi pour conduire leurs âmes vers le royaume de Dieu. Mais en même temps, le Seigneur veut leur faire comprendre par le miracle de cette pêche humainement impossible, mais rendu réel par sa seule parole, que ce n'est pas là une tâche humaine, c'est une tâche totalement au-dessus des forces de l'homme. Ce n'est que par la grâce de Dieu que les apôtres pourront mener à bien cette mission. Pour réaliser leur mission, les apôtres seront revêtus de la force d'en haut. À leur suite, le seront aussi ceux qu'ils établiront comme leurs successeurs, afin que la parole du Christ soit répandue dans le monde entier jusqu'à la fin des temps. C'est ainsi que cette péricope de l'Évangile nous fait entrevoir la vocation du ministère apostolique et épiscopal. Mais elle comporte aussi une leçon, un message qui nous concerne tous. Elle nous fait comprendre combien nos efforts humains sont vains, tant qu'il reste des efforts seulement humains. L'Évangile est totalement irréalisable par les seules forces de l'homme. Mais si nous en remettons à la grâce de Dieu, à l'énergie divine que le Christ ressuscité nous communique par le Saint-Esprit, alors nous pouvons avoir une vie féconde. Nous pouvons réaliser, nous aussi, des pêches miraculeuses, dans tous les domaines. Mais souvenons-nous, le Seigneur avait dit à Pierre, qu'est-ce qu'il lui avait dit ? Avance au large et jette les filets. La grâce, voyez-vous, ne vient pas toute seule, par enchantement. Il faut que nous collaborions sans ménager nos efforts. C'est là aussi un enseignement de cette péricope. Dieu n'agit pas sans nous. Et ce serait une erreur que d'attendre sans rien faire que la grâce seule fasse des miracles. Nous avons derrière nous l'exemple des ascètes du désert et de tout l'enseignement des saints-pères, un enseignement à la fois tellement pratique, tellement concret et en même temps tellement profond théologiquement. Un enseignement qui nous montre combien nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu, mais aussi que Dieu veut que nous coopérions à cette grâce, que nous la demandions parfois avec insistance, que nous nous ouvrions à elle et que nous mettions tout l'effort de notre volonté et toute l'énergie de notre liberté, de notre libre arbitre au service de la grâce. C'est toute la vie qu'il faut transformer, vous l'avez compris, pour que nous nous laissions pénétrer par la grâce tout en agissant par nous-mêmes. Vous comprenez ? C'est ce que les pères, les théologiens appellent synergie. C'est l'énergie ensemble. Il y a l'énergie divine, l'énergie de l'homme. Dieu ne peut rien faire sans l'homme, et vice-versa. Et ce qui vaut pour les apôtres vaut aussi pour nous, dans notre cheminement quotidien. Depuis notre baptême, la grâce de Dieu habite en nous, mais au début, on ne la sent pas. Il faut que nous aussi, comme les apôtres au bord du lac, nous poussions au large pour obéir. Dans la foi, obéir à la parole entendue. Peut-être n'arriverons-nous pas à grand-chose et nous aurons le sentiment de l'échec. Mais l'expérience de l'échec, ça aussi c'est un enseignement des pères, l'expérience de l'échec est nécessaire pour parvenir à la véritable humilité. Ensuite, si nous devenons véritablement humbles, la grâce de Dieu pourra réellement s'enraciner en nous. À ce moment-là, encore comme disent les pères, nous n'aurons plus à ramer pour faire avancer notre barque, mais j'aime bien l'image, à tendre simplement les voiles pour capter le souffle du Saint-Esprit. C'est une image, certes, mais combien elle est réelle. Quand Séraphin de Sarov dit « Le but de la vie chrétienne, c'est d'acquérir le Saint-Esprit », c'est bien la même image qu'il utilise différemment. Mais ce serait une illusion de croire qu'on puisse commencer par là. Il faut d'abord agir comme le Christ nous demande, agir avec notre liberté, avec notre volonté. La volonté est très importante, bien sûr. Et savoir que ce n'est pas nous qui réussirons, mais que le Christ est là, qui nous assiste, que la grâce de Dieu agit, même si nous ne s'en sommes pas conscients. Saint Antoine, dans la biographie qu'en a fait Saint Athanase, raconte cette histoire. Il était encore jeune ascète, et il commençait sa vie d'ermite, et il luttait contre ses passions, contre ses tendances internes. Il luttait avec ardeur et avec difficulté, c'était pas facile. Et il implorait le Seigneur et il avait l'impression d'être tout seul. Et à un moment, Au bout d'un temps, ça a duré du temps, il faut que le temps a son importance, mais il faut rester, il ne faut pas se lasser. Alors à un moment, il a eu la révélation que le Christ était là. Dans son esprit, il l'a entendu, il a commencé à lui parler, et presque en le blâmant, en lui disant, mais Seigneur, enfin tu es là, enfin tu viens à mon secours, tu n'as pas vu tout ce que j'ai enduré pour toi. Et le Seigneur lui a répondu, il a entendu dans la voix intérieure, il n'a rien vu, mais il a entendu. Mais j'étais là tout le temps, j'ai vu tes efforts, et je t'encourage à continuer ainsi. Voilà, cette parole est forte. J'ai vu ton courage, j'ai vu vos efforts. Tous, le Christ, il faut être bien persuadé, le Christ voit nos efforts. Alors s'il ne se manifeste pas tout de suite, c'est qu'il a un plan et que ce plan veut que... Voilà, il faut qu'on montre notre constance, que notre force, et il faut qu'on continue. Tant que notre cœur n'est pas suffisamment purifié, nous ne ressentons pas la grâce. La présence du Christ, c'est évidemment la grâce la plus élevée. Mais peu à peu, elle se fera plus présente, plus sensible. Les pères comparent la vie spirituelle à une échelle. Vous savez, on fête ça pendant le carême avec Saint Jean Climac, mais il n'y a pas que Saint Jean Climac qui utilise cette image. Une échelle qu'il faut monter degré par degré, au début sans sentir la grâce, mais en croyant, ça veut dire en étant persuadé, en faisant confiance que le Saint-Esprit est présent et agit dans notre cœur. Et c'est en lui qu'il faut donc mettre notre confiance. Nous aurons l'impression qu'il faut faire avancer notre barque à la force du poignet. Et nous expérimentons surtout, quoi ? D'abord, notre faiblesse, notre impuissance. Mais le résultat sera de nous faire connaître l'humilité profonde et le vrai repentir, qui sont les clés fondamentales de la vie spirituelle. J'aurai l'occasion de développer ces thèmes au cours des dimanches qui viennent, d'en reparler. Mais mettez ça vraiment dans votre pensée constante, humilité profonde, vrai repentir. À partir de là, notre vie spirituelle sera plus chaleureuse, plus rayonnante, et Dieu deviendra plus sensible à notre cœur. Dieu lui-même, disent encore les pères, Saint Macaire d'Égypte, par exemple, Saint Isaac le Syrien. Donc Dieu lui-même nous aidera de manière sensible à franchir les échelons de notre ascension. Alors, pour conclure, demandons au Seigneur de nous aider à faire en nous-mêmes une pêche miraculeuse, de repentir, une pêche miraculeuse d'amour du prochain, d'humilité, d'amour du Seigneur, mais n'hésitons pas à agir, à ramer, même si cela nous paraît inefficace, même si on a l'impression qu'on a fait ça depuis des années et qu'on n'a pas beaucoup de résultats. Car c'est pas à nous de juger, c'est le Seigneur, Dieu, à qui soit la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.